Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bienvenue dans votre émission de Radio Capier titulaire Regard sur la côté de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la côté de la semaine, nous recevons à ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba. Il est doctorant à l'Université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité. Il est aussi membre de Mayele Institute. Bonjour Josaphat Moussamba.
Bonjour Guy Maté.
Maître Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central. Bonjour Maître Annie Massengou.
Bonjour Monsieur Guy Maté, bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Et aussi en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment Le Sahel, notre Afghanistan. Bonjour Eddy Kaba.
Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Aline depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba. Il est doctorant à l'Université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité. Il est aussi membre de Mayele Institute. Madame Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central. Et aussi en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment Le Sahel, notre Afghanistan. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir pour parler de Doha et communiquer au contenu identique avec cette question, quels impacts sur le théâtre des opérations? Mort du pape François, il est parti sans avoir été écouté par la classe politique congolaise. Et enfin, affaire Matata Ponyo et les scandales financiers de Bukangalonzo. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la présence ou non de Joseph Kabila à Goma. En effet, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD de Joseph Kabila, a réagi dimanche 20 avril aux décisions des ministres de la Justice Constant Mutamba et de l'Intérieur Jacquemain Chabani, à la suite de la rumeur de la présence de l'ex-président Joseph Kabila à Goma, ville actuellement sous contrôle du M23. Il accuse les régimes Tshisekedi de fabriquer des histoires rocambolesques pour manipuler l'opinion publique, masquer ses propres exactions et intimider l'opposition. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Capi, ce cadre éminent du PPRD a déclaré « Le ministre de l'Intérieur, censé être bien informé, se trompe lourdement. » Qui a vu Kabila de ses propres yeux à Goma? Qui a vu des photos de lui dans cette ville? Nous déplorons qu'un gouvernement entier prenne des décisions basées sur des rumeurs qu'il a lui-même créées visant un parti d'opposition et une personnalité sans aucune preuve. C'est regrettable que notre pays soit tombé si bas et que l'UDP se combatte et tue la démocratie en RDC. Concernant l'ouverture des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et ses supposés complices accusés de soutenir le M23, la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers, la suspension des activités du PPRD sur tous les territoires nationaux, ainsi que les restrictions des déplacements imposées opposé à certains cadres du parti. Ferdinand Cambéré dénonce des actes illégaux propres à un régime dictatorial et totalitaire. Tshisekedi veut instaurer une république à pensée unique, a-t-il conclu. Jirafat Moussamba, tout le monde a annoncé la présence de Kabila à Goma, mais jusque-là, personne n'en a exhibé la preuve de sa présence dans cette ville. Comment vous comprenez cela?
Merci beaucoup de m'associer pour décortiquer cette actualité. Tout le monde a annoncé la présence de Kabila à Goma, mais personne n'a vu la preuve. Oui, c'est effectivement la position qui s'est tenue par le PPRD et certains qui ont vu de l'acharnement dans à la fois Kinshasa, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Par contre, je ne veux pas non plus dire que comme je n'ai pas vu de preuves, mais vous savez, Guy Maté, il y a des événements qui n'ont pas besoin d'avoir de preuves. Et surtout lorsqu'on travaille sur ce qu'on a, on dit des documents à lire et à déchirer, ou alors lorsqu'on travaille sur des dynamiques secrètes, quelqu'un peut arriver sans qu'on puisse manifester sa présence. Et donc pour dire que moi je suis pas d'accord avec ceux qui disent on n'a pas vu la preuve. Il y a des preuves qu'on divulgue. Il y a des preuves qu'on ne voudrait pas non plus montrer parce que ça va déranger en fait le plan, ça va déranger non plus la quiétude. Et donc, je reste dans cette perspective. On veut le voir, on veut voir les images, on veut voir les photos de Kabila à Goma, on veut voir les photos de Kabila à Kigali, où, comme on a dit, ça a été annoncé par des gens qui sont proches de lui. Mais personne ne veut dire que le journaliste qui aurait annoncé cette présence, pourquoi il n'est pas à Kinshasa? Pourquoi Steve Wayne, ça fait, je ne sais pas, plus de 2 ans, il n'est pas à Kinshasa? Et qu'il diffuse autant de contenu? Ça, c'est des questions. Est-ce qu'il a voulu manipuler aussi l'opinion? Les gens qui ont posté cette information, ils ont voulu manipuler l'opinion nationale, l'opinion internationale et régionale. Et donc, c'est pour dire, moi, je reste un peu sceptique. Et je ne dis pas que je ne vois pas ces preuves-là, mais je ne nie pas le fait que existent des preuves qu'on ne vous exhibera jamais et pour lesquelles la réalité a existé.
Merci. Madame Annie Massengou, on est là face à une simple rumeur ou il s'agit plutôt d'une allégation qui doit être confirmée, selon vous?
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je ne sais pas dire qu'il faut la confirmer parce que moi-même, je n'ai pas la preuve que M. Kabila se trouverait à Goma. Mais je pourrais aussi un peu faire confiance aux autorités parce que les autorités sont entourées de beaucoup de services de renseignement. Ça serait pas un hasard qu'on dise que Kabila se retrouverait à Goma. Et ceux qui peuvent dire que les pays sont tombés trop bas parce que, bon, sur base des rumeurs, on a pris des décisions, on comprend que quelqu'un, lorsqu'il est dans une position donnée, il cherchera à soutenir cette position-là. Mais moi, je voudrais appeler les Congolais à regarder un peu les choses différemment. Qu'être là en train de soutenir l'insoutenable. Faut voir l'intérêt général, l'intérêt du pays. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays, nous devons maintenant changer notre façon d'analyser les choses et notre façon de voir, notre façon d'appuyer. Nous ne devons pas être continuellement restés des djalélistes, faire l'apologie des individus au détriment du pays. Parce qu'il s'agit du pays, je pense que tous les Congolais doivent s'aligner sur la ligne de défense des intérêts du pays. Merci.
Merci, Seydi Kaba. Au-delà de cette affaire, présence de Kabila ou non à Goma, à votre avis, quelle est la carte que jouerait Kabila? Est-il effectivement le chef de cette rébellion comme l'est dit le régime de Kinshasa? Ou c'est plutôt un acteur politique qui cherche, n'est-ce pas, à profiter d'une situation donnée afin de se repositionner?
Alors, cher Guy Maté, je ne peux pas dire que Kabila est le chef de la rébellion. Je n'ai pas assez d'argent pour me défendre en cas de procès. Mais je peux simplement dire que j'observe que Kabila a été le président de la République pendant 18 années et qu'il est un acteur majeur de la vie politique congolaise. Il n'est pas exclu de mon point de vue qu'il voit dans l'affaiblissement du pouvoir actuel ou dans les déboires du pouvoir actuel dans le contexte actuel une opportunité de rebondir au plan politique et de se poser en alternative entre l'opposition et le pouvoir. C'est un calcul politique. Il avait été annoncé qu'il allait revenir au pays. Il n'est pas revenu encore. Ses partisans disent qu'il va encore, il va venir. De toute façon, il faut rester à l'écoute pour entendre ce qu'il va dire. Je note simplement, en tant qu'analyste et observateur, qu'il cherche un positionnement politique. Il cherche à se positionner comme alternative, peut-être pour la prochaine élection, comme alternative dans le contexte actuel, où on observe que le pouvoir s'est montré disposé à avoir un gouvernement, une union nationale en tout cas, pour lutter contre cette rébellion du M23 soutenue ouvertement par le Rwanda. Donc il y a un calcul politique, il y a un agenda caché de Kabila, mais je ne saurais dire pour ma part que c'est lui le chef de la rébellion. À mon avis, il peut peut-être profiter de l'opportunité que lui donne le contexte actuel pour essayer de rebondir après un long silence et après même une absence totale de la scène politique congolaise.
Merci. On prend une petite pause en écoutant qui sera des mailles courantes. On se retrouve juste après.
Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que dissipé, je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question.
Qui sera avec Mike Nant, Backland, cet artiste et musicien français qu'on ne présente plus. On revient à l'actualité cette semaine. Les délégations de Kinshasa et du M23 AFC ont décidé mercredi 24 avril à Doha au Qatar d'une trêve devant conduire à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cet engagement est contenu dans un document conjoint parvenu le même mercredi à Radio Okapi. D'un commun accord, ces deux parties ont ainsi réaffirmé leur attachement à une cessation immédiate des hostilités, rejetant catégoriquement tout discours de haine et d'intimidation. Kinshasa et les M23 ont recommandé aux communautés locales de respecter ces engagements. Ils ont également convenu que leur respect constitue une étape clé vers un dialogue constructif en vue d'un retour durable à la paix en RDC et dans la région de Grand Lac. Selon ces documents, ces dialogues portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que sur les modalités concrètes de sortie des conflits dans les territoires de l'Est du pays. Pendant ce temps, de nouveaux affrontements ont été signalés depuis tôt ce vendredi dans les territoires de Masisi. Les rebelles du M23 se sont affrontés aux combattants Wazalendo de l'APCLS sur au moins 4 axes dans le secteur d'Osso-Banyungu. Les combats en cours provoquent une fois de plus des mouvements de déplacement importants dans cette région, disent les sources locales. Josaphat Moussamba, vous êtes doctorant à l'Université des Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité. Vous êtes aussi membre des Maele Institute. Vous avez souhaité nous parler, pour parler de Doha et communiquer au contenu identique avec cette question. Quels impacts sur le théâtre des opérations? On vous écoute.
Merci beaucoup, Jimaté. Dans un premier temps, je peux dire que, à suivre les communications qu'on a écoutées à la fois du M23 et celle de la délégation congolaise, c'est une première, hein, parce que il y a quelques années, depuis la résidence du M23, qui a sollicité de discuter avec Kinshasa, mais Kinshasa qui ne voulait pas, il a fermé jusqu'à l'ouverture de cette porte. Cependant, il y a eu pas mal d'initiatives, hein, l'initiative de Luanda et de Nairobi, qui récemment ont été fusionnées, je pense, dans le cadre de SADC et EAC. Mais c'est une première où les deux parties se sont rencontrées à Doha. Évidemment, après la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame, qui, pour moi, avait jeté la base de ces processus qu'on venait de suivre. Les partis se sont rendus à Doha et ils ont essayé de fermer, de ne pas faire fuiter toutes les discussions qu'ils ont eues ensemble. Et ce qui était assez important, qu'ils viennent maintenant à des communiqués identiques, mais qui n'ont pas été signés sur le même document. C'est ça qui, pour moi, me pousse à me poser beaucoup plus de questions. Par contre, qui se sont entendus sur les thèmes de référence, sur le contenu, sur les discussions, sur les trêves, ce c'est le fait, la préparation des prochains dialogues, ça c'est déjà des éléments assez importants pour lesquels ils vont aller discuter. Par contre, si le Rwanda n'est pas concerné par ces communiqués que nous avons lus aussi exactement, il me semble que ce processus, voilà, a permis de faire rencontrer les acteurs et je ne sais pas ce que ça va faire au niveau vraiment local comme le Rwanda n'est pas interpellé là-dessus. Ça c'est un premier point. Par contre, au niveau africain, on a vu aussi que quelqu'un comme Fornia Simbe était désigné dans le processus et il y a aussi ce processus conjoint SADC et EAC pour lequel il y a deux jours, je pense, le 23, une réunion s'est tenue à Dar es Salaam où des experts militaires de ces deux structures se sont rencontrés et ont émis des recommandations au chef d'État par rapport aux priorités qui rentrent dans le contexte de la réunion du 8 mars chef de l'État. Cependant, je vais arriver. Alors, sur le théâtre des opérations, comme vous l'avez noté, et évidemment, comme Maëlle aussi a sorti son rapport spécial, fait mention de plusieurs affrontements, y compris d'autres actions dans les deux provinces, dans les zones qui sont contrôlées par l'AFC-M23, autant à Walikale, Masisi, Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, et au Sud Kivu, dans les territoires d'Uvira, de Mwenga, des Kabare, des Walungu, des Calais. Dans tout ce territoire, il y a eu des affrontements entre l'AFC-M23 et tantôt des groupes armés Wazalendo ou alors avec des positions FRDC. Dans d'autres endroits aussi, il y a une accalmie qui s'observe. On ne peut pas dire aujourd'hui que, malgré qu'ils aient signé, c'est communiqué, que sur les terrains des opérations, dans les deux provinces et dans les territoires qui sont contrôlés par l'AL-523 et où ils sont bloqués ou alors qui s'affrontent régulièrement avec des groupes armés de Wazalendo ou tantôt dans la position FRDC, tantôt ce sont les partis, comme tu appelles, des ennemis, le gouvernement ou les Wazalendo qui vont attaquer la position des M23, AFC, ou alors ce sont les positions AFC-M23 qui vont attaquer les positions en fait, des Wazalendo et du gouvernement. Donc on peut voir cela sur les terres des opérations au niveau des deux provinces, et est-ce que le communiqué va vraiment calmer cela? Est-ce qu'on va maintenant observer si toutes les parties vont observer effectivement les cessez-le-feu comme ils l'ont dit? Est-ce que le processus va accompagner? Mais moi, je suis un peu aussi le processus qui a été entamé par l'équipe conjointe SADC et AC. Peut-être que ce processus politique qui est amorcé à Doha pourra être complété par un processus beaucoup plus pratique à court, moyen et long terme. Peut-être on verra comment ça va se fusionner les deux, ça va s'arrimer, mais sur le terrain, il y a encore des clashs et on ne sait pas s'il y aura des progressions de part et d'autre.
Justement, Josaphat Moussamba, vous êtes même vous-même posé cette question-là. Les décisions de Doha pourraient avoir quel impact sur le terrain des opérations là où nous avons des groupes armés qui échappent pratiquement au contrôle du gouvernement congolais, tels que les Wazalendo?
Alors, ça c'est une des questions pour lesquelles j'ai essayé de réfléchir, et je pense que c'est sûr que pour peut-être le Rwanda et pour le AFC-M23, beaucoup de groupes armés avant 2021-2022, qui étaient autrefois traqués dans le cadre du processus Sukola 1, Sukola 2, ont rejoint la politique nationale dans l'endiguement de la progression territoriale du M23. Mais ceci est aussi vrai que Kinshasa ne contrôle pas à 100% les structures hiérarchiques, le commandement de tous ces groupes armés. Ça, c'est aussi un élément assez important à tenir. Et c'est un des arguments, par exemple, que du côté rwandais et même du côté des AFC-M23, ils essaient d'associer les deux structures pour dire que c'est la coalition gouvernementale et Wazalendo. Pourtant, même les Wazalendo, ce sont des structures fragmentées. Ils peuvent se regrouper, mais au niveau des commandements de chaque groupe armé, ils sont indépendants. Ils peuvent avoir des coalitions, mais ils... Alors, de ce point de vue, Kinshasa ne contrôle pas toujours ces groupes armés-là. Et d'ailleurs, je vais vous informer qu'au niveau d'Ouvira, hier et avant-hier, si j'ai bonne mémoire, il y a eu des affrontements entre le FRDC et les Wazalendo, parce que les FRDC veulent que ces groupes armés quittent les positions stratégiques qu'ils occupent autour de la ville d'Ouvira, qui s'éloignent un peu plus. Et ils ont eu des tensions dans la ville d'Ouvira. Et donc, c'est pour montrer aussi qu'ils ne contrôlent pas à 100% ces groupes armés.
Merci.
De ce point de vue, est-ce que une attente gouvernementale et AFC-M23 ne peut pas avoir des répercussions sur les alliances entre gouvernement, FRDC et tous ces groupes armés? Et on a vu qu'il y a des faits qui vont montrer que c'est revirement demain ou après-demain. Si et seulement si les groupes armés ne sont pas aussi associés dans un processus, parce qu'ils sont aussi partis au conflit autant que les M23 qui est un groupe armé.
Merci.
Comme les autres.
Merci. Sedi Kaba, vous êtes journaliste et universitaire, vous êtes président du Centre international des réflexions et d'études sur le Sahel, Think Tank basé à Paris. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment Le Sahel, notre Afghanistan. Le fait d'avoir deux communiqués au contenu identique mais signés séparément peut refléter quoi à votre avis?
Bon, pour moi, d'abord, le fait que Qatar ait pu réunir le président Tshisekedi et le président Kagame était une avancée importante, puisque les médiations africaines n'ont pas permis que ces rencontres se tiennent malgré les différentes tentatives. On avait espéré que cela se fasse lors du dernier sommet ordinaire de l'Union africaine en février à Addis Abeba en février dernier, ça ne s'est pas fait. Donc le Qatar a réussi un joli coup diplomatique, d'abord en faisant asseoir dans la même salle, sous l'arbitrage de l'émir du Qatar, les deux présidents. Ensuite, maintenant, il y a eu ces discussions indirectes d'abord ou directes, on ne sait pas. En tout cas, le fait qu'il ait ce communiqué, même s'il n'est pas co-signé, même s'il est signé séparément, prouve qu'il y a quelques avancées dans les discussions qui se passent actuellement au Qatar. En tout cas, c'est la première fois qu'on arrive à un niveau de discussion comme celui-là, y compris en essayant d'envisager un cessez-le-feu. Parce que pour l'instant, autant que je constate, il n'y a pas un accord de cessez-le-feu, mais l'accord de cessez-le-feu fait partie des éléments qui sont dans le pipeline sur lesquels les deux parties pourraient se mettre d'accord. Pour moi, le fait que ce communiqué au contenu identique ait pu être signé, même si c'est séparément, prouve que la médiation du Qatar avance et que peut-être que dans les prochains jours, on va arriver à d'autres étapes de cette médiation et peut-être même un dialogue direct avec des conclusions qui incluraient les préoccupations qui viennent d'être soulevées, y compris la place des alliés du FRDC, la place du Rwanda, parce que ce qu'il faut retenir, à mon avis, dans la médiation qatarie et qui fait sa force, c'est que le Qatar a des leviers, il a des moyens d'action, à la fois sur le gouvernement de Kinshasa et sur le Rwanda, puisqu'on sait que les investissements du Qatar sont importants au Rwanda et que le Rwanda attend que le Qatar continue d'investir. Donc le Qatar a des moyens, c'est le seul pour moi acteur, véritablement, à côté même de la médiation du président Faure Gnassingbé qui a été désigné par l'Union africaine. Pour moi, c'est le Qatar qui a les leviers, qui a les moyens de faire plier, de faire avancer les différents belligérants et de pouvoir faire avancer les discussions pour trouver un accord politique et mettre fin à la souffrance des populations congolaises.
Merci, Maître Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central. Doha, c'est la discrétion totale. On a même du mal à connaître les délégués des différentes parties à ce dialogue. À votre avis, vous pensez que c'est une approche qui pourrait être efficace?
Bon, du moment que ça pourrait nous amener à une solution qui résolverait les souffrances de la population congolaise, je pense parfois la discrétion est mieux que lorsque tout filtre, parce que nous ne savons même pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de rester dans une très forte discrétion, évitant à ce que les informations fuitent. Je connais pas vraiment les motivations, mais bon, l'important pour nous, c'est que on arrive à trouver une solution qui va dans l'intérêt de la population congolaise. Et moi, je me suis toujours posé la question, et chaque fois quand nous parlons de la question de l'agression du Rwanda, qu'on insiste sur le fait d'une négociation. Sur terrain, nous avons les AFC M23. On dit que ce sont des groupes armés congolais. Mais quand il faut passer aux négociations, c'est avec le Rwanda que ça se passe. C'est là où ça choque un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est le Rwanda qui part aux négociations? C'est-à-dire que ces groupes armés-là ne sont pas des groupes armés congolais. Ce sont des groupes armés créés ou ce sont des militaires rwandais qui sont sur le sol congolais et qui agressent le Congo. Alors pourquoi est-ce qu'on doit aller aux négociations avec un pays qui viole la souveraineté d'un autre État? Pourquoi on ne peut pas juste donner des injonctions à ce pays-là de retirer ses troupes, point barre? Quels sont les accords qui vont être signés? Le Congo, la RDC n'est pas au Rwanda, mais c'est le Rwanda qui est en RDC. Alors, quels sont ces accords qui seront signés? Que nous, populations, ne sommes pas consultés ou contactés pour que nous donnions aussi notre point de vue. On ne va pas nous imposer des choses parce que il y a toujours un principe qui dit « Ce qui se décide sans moi est contre moi ».
Merci.
Le peuple est souverain. Et les autorités apportent les aspirations profondes de la population. Si on va aux négociations sans consulter le peuple, et puis tout est verrouillé, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui va se faire, tout ça là. Ça devient contre nous, population. Est-ce que nous sommes d'accord de cohabiter avec les M23? Ce sont des questions qu'il faut d'abord se poser avant. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi on impose ces négociations avec les Rwandais. Nous allons signer, représentés par nos autorités, il sera signé des documents. Ces documents-là qui seront inconnus, c'est comme ça d'habitude, on est là, non, il y a eu des accords signés, des accords, la population ne connaît rien de ces accords-là, et puis finalement, c'est des individus qui vont prendre des décisions à la place de toute une communauté. C'est quand même un peu, c'est un problème sérieux ça.
Merci.
Je crois qu'il faut revenir d'abord pour avoir les aspirations profondes du peuple, afin d'aller à ces négociations-là. Mais quand tout est verrouillé, tout est caché, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire?
Merci. Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, la RDC a commémoré jeudi 24 avril le 9e anniversaire de la mort de Shungu Mbadio, alias Papa Wemba. Cette icône de la musique congolaise moderne et figure incontournable de la rumba est décédée le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors qu'il s'est produit sur la scène de la 9e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo et Femua à Sigle. Papa Wemba demeure une légende admirée et célébrée par les mélomanes du monde entier. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'une de ses compositions intitulée Pénitence Nanga et on revient juste après.
Some
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la présence ou non de Joseph Kabila à Goma. Nous avons également analysé les pourparlers de Doha et communiqué au contenu identique avec cette question, quels impacts sur le théâtre des opérations. Participe à cette émission, en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba, il est doctorant à l'université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité. Il est aussi membre de Maël Institute. Madame Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central. Et aussi en ligne depuis Paris, capitale de la France, Seydi Kaba, il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Le Sahel, notre Afghanistan ». Le pape François sera inhumé ce samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Mais pendant ce temps, sa dépouille est exposée dans la basilique Saint-Pierre où plusieurs personnes sont en train de lui rendre les derniers hommages. Au cours de son pontificat, le pape François a visité plusieurs pays dont la RDC, un pays qu'il a soutenu, notamment contre la guerre qui les déchire dans sa partie est. Outre les prières pour le retour de la paix, il a fait montre d'un engagement constant visant à soutenir la paix, la justice et le développement dans ces pays. Opposé au colonialisme économique de l'Afrique, le Saint-Père avait adressé le 31 janvier 2023 à Kinshasa un message clair aux multinationales, je cite, « Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique », fin de citation. Seydi Kaba, vous avez souhaité nous parler, n'est-ce pas, de la mort du pape François en affirmant qu'il est parti sans avoir été écouté par la classe politique congolaise. On vous écoute.
Non, je crois que je ne serai pas très long, cher Guy Mathé. C'est que vous avez, la présentation que vous avez faite est assez suffisante. Le pape a visité 10 pays, a fait 5 voyages, a visité 10 pays africains. Et parmi les pays qu'il a visités et où il est resté le plus longuement, il y a la RDC, où il est resté du 31 janvier au 3 février 2023. Et tout le monde se souvient de cette grand-messe qu'il a célébrée à Ndolo, où il a réuni environ 1 million de personnes au cours de son séjour en RDC. Il a fait des exhortations, il a fait des demandes que vous avez rappelées, notamment... retirez vos mains de la RDC, comme vous avez dit. Cessez d'étouffer l'Afrique, avait-il dit à cette occasion. Et l'Afrique n'est pas à dévaster. Quand je regarde toutes ces exhortations, tous ces enseignements que le pape a pu déclamer lors de son séjour à RDC, et je constate qu'il vient de décéder et qu'il va être inhumé, comme vous avez rappelé le samedi, je me dis que ses voeux n'ont pas été exaucés, ni à RDC d'ailleurs, ni dans les autres pays africains. Il faut espérer maintenant que le combat qu'il a porté puisse être poursuivi. La tentative qu'il a faite d'être le porte-voix des sans-voix, d'être le porte-voix des personnes qui souffrent de la guerre en RDC, dans l'est de la RDC, des personnes qui souffrent de cette exploitation éhontée des ressources minières du Congo et d'autres parties de l'Afrique, à mon avis... ça m'a interpellé et ça me dit au moment où le monde entier va se réunir pour célébrer ces obsèques-là, il était bon de rappeler cet engagement à la fois pour la RDC et pour le reste du continent africain.
Voilà, vous avez dit qu'il est parti sans que la classe politique congolaise puisse l'écouter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je pense que quand j'ai dit que la classe politique l'ait écouté, le pape, l'agenda du pape, c'était que le Congo retrouve la paix, retrouve la stabilité, retrouve la gouvernance vertueuse. Et il y a eu cette exhortation que le pape a pu faire au Congo. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui, en regardant les tiraillements qu'il y a autour de la classe politique congolaise, quand je vois l'agenda personnel, quand je vois le paix d'intérêt, l'intérêt général qui est porté par cette classe politique, je me dis que ces gens n'ont pas entendu le pape, ou ils l'ont écouté sans comprendre ce qu'il leur a dit, ou ils n'ont pas du tout voulu comprendre ce qu'il leur a dit. C'est ce constat que j'ai fait. Entre le séjour du pape où il a fait ses exhortations, ses déclarations et le comportement que je vois aujourd'hui, je me dis c'est comme si le pape n'est jamais passé en RDC.
Merci Madame Annie Massengou. Quel est votre point de vue par rapport à ces constats faits par Sidi Kaba au sujet, n'est-ce pas, de la disparition du pape, et qui, selon lui, il est parti, n'est-ce pas, sans qu'il ne soit écouté par la classe politique congolaise.
Bon, je pense qu'il n'a pas seulement été écouté par la classe politique congolaise, il n'a pas été écouté par les multinationales, parce qu'il leur a demandé aussi d'enlever leurs mains en RDC et en Afrique. Si nous avons des guerres, derrière ces guerres-là, il y a la main des multinationales qui se complaisent dans l'insécurité et exploitent les minéraux de façon illégale. Et donc, les autorités politiques congolaises devant les multinationales se montrent faibles. On devait beaucoup plus marteler sur les multinationales parce que les vies humaines qui se perdent là, ce sont des personnes comme les financiers des multinationales. Et la population congolaise, d'abord il faut savoir que l'armée avait déjà été affaiblie depuis très très longtemps. Les pays étaient sous embargo d'armes. Et puis après, il fallait reconstituer les choses. Et puis il y a eu levée de l'embargo. Et dans cette faiblesse-là, il y a eu des étapes de brassage, mixage et tout ça qui ont facilité l'infiltration des étrangers dans l'armée congolaise. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est difficile que l'armée soit refaite et qu'elle soit forte pour se défendre. Ce qu'il faut, c'est la pression sur les multinationales. Celles qui veulent exploiter les minéraux au Congo peuvent entrer par la grande porte, négocier avec le gouvernement congolais, s'entendre et exploiter, plutôt que préférer l'insécurité pour commencer à exploiter et emporter les minéraux sans payer un seul rond à la République démocratique du Congo, mais au contraire, verser les sangs des innocents. Qui n'en bénéficient même pas, qui ne connaissent même pas pourquoi les gens se battent, et qui sont pauvres, trop pauvres même. Moi, je crois, en tout état de cause, il faudrait que l'accent soit beaucoup mis sur les multinationales qui viennent pour exploiter les minéraux plutôt que le gouvernement congolais. Parce que le gouvernement congolais, devant ces multinationales-là, et impuissant. Voilà un peu ma façon de voir.
Merci. Josaphat Moussamba, le pape est parti sans avoir été écouté ni par la classe politique de la RDC, ni par les multinationales. Et du coup, on se pose la question de savoir si il avait la même aura que ses prédécesseurs, hein, notamment Jean-Paul II.
Bon, j'ai écouté mes prédécesseurs. J'ai plutôt l'impression que la venue du pape comme un pouvoir religieux symbolique et ses exhortations ne peuvent rien changer sur, en fait, les dispositions des acteurs dans le conflit. Bien sûr, pour ceux qui ont du respect, le Congo a du respect envers les papes, tout comme les autres acteurs politiques au Congo. Mais tous ne sont pas des catholiques. Certains sont des protestants, d'autres sont des kimbanguistes, d'autres sont des musulmans. Alors, de ce point de vue, je crois déjà qu'au niveau de la classe politique à Kinshasa, ça va poser des soucis. Même si on a l'admiration, on les respecte. Ce n'est pas parce que le pape a dit que les politiques qui aujourd'hui sont traqués comme on peut perdre, ou alors l'UDPS, et va déjà transformer les actions politiques parce que le pape a dit. Par contre, j'ai vu que peut-être la classe politique n'a pas suivi le pape, mais laisse la possibilité à la démarche de l'Église du Christ au Congo et la CENCO à chercher des moyens à résoudre la crise parce qu'ils ont eu la possibilité de parler avec les acteurs politiques. Je ne vois pas que la classe politique congolaise est obligée de se conformer, mais il avait tout intérêt, si vous voulez, à écouter au moins les cinq sièges. Alors, il n'a pas fléchi à des religieux qu'on voit déjà à Kinshasa, les cardinaux qui sont là et des prêtres. Est-ce qu'il pourrait les influencer? Moi, je trouve ça très, un peu difficile. Un peu difficile à partir du moment où des gens qui sont en concurrence politique, si le pape et les paroles peuvent influencer leurs décisions alors que leurs partis politiques sont en difficulté, je trouve ça un peu plus difficile. Mais je pense que c'était une bonne démarche, même si je crois que sa venue ou ses exhortations, sans pour autant les minimiser, son pouvoir à travers le monde, si leurs intérêts ne concordent pas, ils ne vont jamais fléchir.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Deux Saisons avec Tchalamwana en featuring avec Mégé 30 et on se retrouve juste après. Saisons avec Tchalamwana en featuring avec Mégé 30. Je rappelle que nous avons dans cette émission en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Josaphat Moussamba. Il est doctorant à l'Université de Gand et chercheur au groupe d'études sur les conflits et la sécurité. Il est aussi membre des Mayele Institute. Madame Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central et aussi en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba. Il est journaliste et universitaire. Il est président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, Think Tank, basé à Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment Le Sahel, notre Afghanistan. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle a requis ce mercredi 23 avril 10 ans de travaux forcés et de servitudes pénales contre Matata Ponyo et ses coprévenus dans le cadre du procès relatif à la débâcle du projet agro-industriel de Bukangalonzo. Séance tenante, l'organe de la loi a ordonné l'arrestation immédiate de l'ancien Premier ministre qui écope également de 10 ans d'inéligibilité. Une peine de 5 ans d'inéligibilité a été requise contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutombo, ainsi que l'expulsion définitive de l'homme d'affaires sud-africain Christo du territoire national. La Cour a jugé le prévenu par défaut après avoir instruit les fonds de l'affaire, notamment à travers les dépositions des inspecteurs des finances qui ont enquêté sur la débâcle du projet Bukangalonzo. La cause est désormais prise en délibéré et le verdict de la Cour est attendu pour le 14 mai prochain. Madame Annie Massengou, vous avez souhaité nous parler de cette affaire Matata Ponyo et les scandales financiers de Bukangalonzo. On vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Je voudrais ici dire que ce procès a permis à la population congolaise de voir le degré de la légèreté avec laquelle nos hommes politiques gèrent ce pays. Ce projet Bukangalonzo, c'est un projet qui donnait beaucoup d'espoir, un grand projet qui devait combattre le chômage, qui devait combattre la faim, qui devait combattre la pauvreté et qui devait nourrir pratiquement tous les pays et même une partie de l'Afrique. Quand je regarde que les travaux devaient se faire sur, s'exécuter sur 80 000 hectares à l'est de Kinshasa. 80 000 hectares, c'est pas peu de choses. Ça allait être une solution à beaucoup de problèmes et on ne s'inquiéterait pas. Malheureusement, rien n'a été fait. Les choses sont abandonnées, les machines abandonnées, les tracteurs abandonnés. J'ai eu vent que même les moteurs de ces tracteurs ont été déjà dépiécés, placés dans autre chose. Et finalement, l'argent détourné, l'argent parti comme ça, l'argent de la République n'a pas servi à l'objectif pour lequel il a été dépensé. J'ai vu que même dans les traitements avec les particuliers qui devaient exécuter les 10 projets, d'après ce que j'ai lu du rapport des inspecteurs, il n'y a pas eu du sérieux et ce manque de sérieux était fait à dessein. À dessein parce que à l'interne, on s'est créé toujours des possibilités de détourner des fonds. Malheureusement, au cours de l'audience, les prévenus ont préféré sécher. Or, sécher, c'est une fuite de responsabilité. Il fallait qu'ils viennent se justifier et expliquer, contredire les rapports des experts. Malheureusement, ils ont résolu de ne pas se présenter et laisser que l'audience se passe par défaut. Et ça nous laisse, nous, population, dans la soif. Nous voudrions quand même comprendre qu'est-ce qui s'était passé réellement. Pourquoi est-ce que 80 millions de dollars sont partis en fumée? Nous devions comprendre. Mais malheureusement, ils ont refusé. C'est-à-dire que quand ils ont refusé de se présenter, c'est que nous, population, nous pouvons conclure qu'ils se sont sentis réellement coupables, qu'ils ont la main trempée dans la chose, c'est pourquoi ils ont refusé. Et j'ai vu que dans les rapports, on note qu'il y a eu d'abord la société engagée pour exécuter cette mission, c'est une société qui n'avait pas une expertise. Elle n'existait que ça faisait trois ans. Bon, et on peut aussi créer une histoire et puis on en sidate. On lui donne, ne fût-ce que les 3 ans là, mais les inspecteurs ont noté que cette société n'avait pas l'expertise. Et dans les différentes irrégularités constatées, on découvre que il y a eu aussi des sociétés fictives prises comme des sous-traitantes. Il n'y a pas eu étude de faisabilité de ces projets-là. Un grand projet tel que celui-là. Et on n'a pas fait l'étude de faisabilité. Et moi, je me demande, Est-ce que nous allons à l'université, toutes ces études faites, des spécialisations pour des résultats pareils? Nous devons, nous, Congolais, nous examiner. On a trouvé que le business plan, pas l'étude de faisabilité, et le business plan ne renseigne rien sur la gestion du projet. Et aussi, 83% des fonds étaient déjà décaissés. Mais 83% des fonds décaissés, sur terrain, il n'y a rien. La surfacturation qui allait jusqu'à 15%. Est-ce que finalement on aime son pays ou on n'aime pas son pays? Dans l'entretemps, on nous dit que la RDC importe chaque année pour environ 1,5 milliard de dollars de denrées alimentaires. Quel contraste! Alors, j'ai pensé parler de ces sujets pour interpeller la classe politique congolaise, sans vouloir influencer les autorités judiciaires. Le ministère public a requis 10 ans d'inéligibilité, 5 ans d'inéligibilité et expulsion. Mais qu'en est-il maintenant des fonds décaissés? Il faut qu'on arrive, quand on attaque comme ça, ça voudrait dire que on se rend compte maintenant qu'il faut combattre l'impunité. Quand on laisse les choses telles que, ça pose problème. En combattant l'impunité, il faut aller jusqu'au bout avec l'idée. C'est ramener les fonds appartenant à l'État congolais.
Merci, merci Sadi Kaba. Du point de vue de la forme, ces procès suscitent beaucoup de débats, dans ce sens que Matata Ponyo, ancien Premier ministre, bénéficie d'une immunité parlementaire. Et en vertu de la Constitution congolaise, aucun député ne peut être poursuivi sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Or, dans les cas d'espèce, aucune levée d'immunité n'a été constatée. Et est-ce que la Cour n'est-elle pas en train de violer ses principes constitutionnels sur le plan formel, Sidi Kaba?
Non, je dis l'adage, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il aurait fallu prendre le temps nécessaire pour faire toutes les investigations, pour remplir toutes les conditions. D'ailleurs, je note que ce n'est pas même le président de l'Assemblée, M. Kamere, qui n'est pas du même bord politique que Matata Ponyo, a dit qu'il fallait quand même le ministère public régularise. Parce que le président de l'Assemblée nationale, M. Kamere, qui n'est pas du même bord politique que Matata Ponyo, a demandé au ministère public de régulariser. Le ministère public est passé outre. Ça jette une ombre sur une ombre de suspicion sur la procédure elle-même. Moi, je ne juge pas du fond, je ne dis pas que Matata Ponyo est comme coupable ou non coupable, ce n'est pas mon rôle. Mais je constate que du point de vue de la forme, du point de vue de la procédure, il aurait fallu prendre le temps nécessaire pour que tout se fasse dans la régularité, pour éviter justement la suspicion de règlement politique. Parce que si vous avez écouté l'intervention de Matata Ponyo devant la Cour, il a dit que certains acteurs ne sont pas ici parce qu'ils ont rejoint la majorité. Les précautions qu'il faut, on passe à côté, on laisse le sentiment de quelque chose qui ressemble à un règlement de compte contre un opposant politique. Donc c'est ça qu'il faut éviter à mon avis. Il faut que la Cour prenne le temps qu'il faut pour apporter. Qui, à la fin, va se présenter comme une victime de règlement de compte politique. C'est ça qu'il faut éviter, à mon avis. Je suis d'accord avec tous les développements qui ont été faits sur la moralisation de la classe. Que la régularité est sujette à caution, qu'il aurait fallu, puisque Matata Ponyo est député, demander à l'Assemblée nationale de tirer son immunité pour avoir une condamnation. Parce que si elle ne le fait pas, on va avoir le sentiment qu'il s'agit de Matata Ponyo est en train de développer comme narratif, comme argumentaire. Il faut éviter de lui donner raison.
Merci, Josaphat Moussamba. On finit cette émission avec vous. Face à une telle situation, le président de la Cour constitutionnelle a deux choix. Soit il s'oppose à l'Assemblée nationale en refusant, n'est-ce pas, de solliciter la levée des immunités de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, soit il suspend la procédure conformément à la Constitution. Qu'est-ce qu'il doit faire?
pas constitutionnaliste, mais sur le plan pas politique, lorsqu'on on organise les pouvoirs, les organes qui composent en fait les États et les types de pouvoirs et les institutions politiques de l'État, on voit les organes qui détiennent le pouvoir dans un État. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir aussi des cours et tribunaux et les législatifs aussi. Moi, c'est au niveau de ces institutions. Moi, je ne suis pas très d'accord avec la démarche de certains individus ou agents qui sont pourvus en fait de ces pouvoirs de position, qui occupent le pouvoir qui ne leur appartient pas, mais c'est au moment où ils ont la position dans une institution, c'est-à-dire un cours, une cour ou un tribunal, comme le président de la Cour constitutionnelle, qui est celui qui est en train de chercher à passer Matata Tapoyon, il remet en cause son, en fait, le fait qu'il soit un député et que pour lui, le pouvoir législatif qui produit en fait les lois sur lesquelles lui il statue, et il oublie que ce pouvoir existe au pays, et alors que c'est, il rend aussi ce droit au nom du peuple congolais. Et que lui-même n'est pas au-dessus de cette constitution qui organise en fait ces pouvoirs entre ces institutions-là. Voyez-vous? Et donc c'est de ce point de vue-là que je vois que dans mon pays, au Congo, quand on est pourvu de ces pouvoirs de position, surtout pour les cours et tribunaux, ils pensent qu'ils sont au-dessus des acteurs politiques. Et ils supportent très mal cette possibilité d'un pouvoir qui arrête un autre pouvoir. Ça veut dire, messieurs de la Cour, ils devraient être arrêtés par le pouvoir législatif. Ça veut dire qu'ils doivent suivre la procédure, comme a dit le prédécesseur, mon collègue, et qui a intervenu avant moi. C'est-à-dire que il doit suivre le procédure, on doit ôter les immunités des Matata Tapoya. Et si les députés ne l'acceptent pas, contestent, c'est normal parce que la Constitution offre les possibilités. Mais ça ne dit pas que les députés ne veulent pas que Matata soit jugé. Au moment où il a son poste, il a acquis le mandat de la population, de son électorat, et il représente le peuple sur qui ces agents qui détiennent le pouvoir de juger le Congolais, qui a voté, a donné sa légitimité à Matata Tapoya et qui est légalement établi comme député. Et pourquoi il doit refuser? Et ça, c'est un de deux. Pour lui, il voit qu'être juge, ça lui donne la possibilité d'aller au-delà d'une institution législative. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les autres, dans les autres pays. C'est ce qu'on voit. Quand on voit ailleurs, les juges peuvent se prononcer contre, tout comme le pouvoir législatif peut aussi dire ça, c'est dans mes compétences, il faut suivre ce que la Constitution dit, et de ce point de vue, on collabore. Par contre, j'ai vu dans les régimes, depuis le début de ces régimes et puis les réorganisations, les cours des tribunaux, tout comme les politiques, ils pensent qu'ils sont au-dessus du pouvoir législatif. Pourquoi? Pourtant, ce n'est pas le cas.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Annie Massengou, Monsieur Saïdi Kaba et Monsieur Josaphat Moussamba. Merci aussi à Dieu Vita qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Eliana, cette autre composition de Papa Wemba, une façon pour nous de continuer à rendre hommage à cette icône de la musique moderne congolaise à l'occasion du 9e anniversaire de sa mort. On écoute donc Eliana et on se retrouve le samedi prochain. Na bomba kulinga mama, na yuli ya yuli.
Thank you.